Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 14h avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, le journaliste de Marianne Péricolégas, le journaliste média mais pas que Thierry Moreau et le journaliste et écrivain Fred Hermel. On est avec vous également au 32-16 sur l'appli RMC pour parler de la journée mondiale sans tabac et pour répondre à cette question, doit-on passer le paquet de cigarettes à 20€ pour dissuader les fumeurs? 13h30 ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On parlera justement du recadrage d'Elisabeth Borne par Emmanuel Macron. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et enfin, une bonne nouvelle, on va bientôt pouvoir résilier nos assurances juste en 3 clics. Comme ça, bim, terminé, c'est fait, on passe à autre chose. À 14h, près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans préféreraient travailler à leur compte plutôt que de signer un CDI. Le contrat à durée indéterminée vous fait-il encore rêver? Et puis, événement dans Estelle Midi ce vendredi, Rémi.
Ça approche. Vendredi, oui. De midi à 15h, Estelle Midi en direct depuis Angers. Nous serons sur le toit terrasse du théâtre Le Quai. Pourquoi pas? Parce qu'à Angers, depuis quelques jours maintenant, on peut nous écouter sur 94 FM. Et si vous voulez participer et suivre en direct cette émission depuis Angers, donc, vous pouvez vous inscrire à l'adresse public@rmc.fr.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC et on va poursuivre Estelle Midi avec la journée mondiale sans tabac. C'est aujourd'hui et on va s'intéresser aux chiffres du jour. 25% des Français, un quart donc, fument quotidiennement. Un chiffre qui ne baisse plus depuis 4 ans, ce qui pose un vrai problème de santé publique. Et pour lutter contre le tabagisme, eh bien des médecins proposent d'augmenter encore le prix du paquet de cigarettes. On pourrait passer à combien, Rémi?
À 20€ le paquet de cigarettes, soit le double d'aujourd'hui. C'est ce que proposait il y a un peu plus d'un an l'association Addiction France, ainsi qu'un collectif de médecins dans une lettre ouverte publiée par le journal Le Monde et adressée à l'époque aux candidats à l'élection présidentielle. Et ils n'en demandent toujours pas aujourd'hui. Pour eux, pas de doute, le prix du tabac est un frein essentiel à la consommation. Et d'autres pays s'y sont déjà mis. En Norvège, en moyenne, le paquet de cigarettes est aujourd'hui à plus de 15€. C'est à plus de 14€ en Grande-Bretagne, à plus de 13€ en Irlande. Aux Pays-Bas, si le paquet de cigarettes est aujourd'hui à 8€, le secrétaire d'État à la santé souhaite le faire passer, attention, accrochez-vous, à 40€ d'ici 2040, avec pour ambition...
C'est 1200€ par mois pour quelqu'un qui fume un paquet par jour.
Avec pour ambition de réduire la proportion de fumeurs dans la population néerlandaise de 20 à 5% en moins de 20 ans. En Nouvelle-Zélande, où le paquet est déjà vendu à plus de 20€, là, l'objectif, c'est de devenir un pays sans tabac d'ici à 2025. C'est demain, Une loi a été adoptée qui prévoit une augmentation annuelle de l'âge légal pour fumer. Toutes les personnes nées le 1er janvier 2009 et après cette date ne pourront plus acheter de cigarettes à l'avenir. Un moyen d'interdire la cigarette à la prochaine génération.
Pas pire.
Alors, doit-on passer le paquet de cigarettes à 20€ pour dissuader les fumeurs? Fred Hermel.
Je comprends l'idée, mais je pense que ça va pas être très efficace.
Ah bon?
On le voit, ces dernières années, le paquet a extrêmement augmenté, et pourtant, ça stagne.
La baisse, ça a fortement baissé, et ça stagne.
Oui, ça a marché pendant une période. Oui. En fait, ce que ça va provoquer, c'est le trafic, la contrebande. Donc voilà, ça va automatiquement.
Les vapoteuses.
Donc je suis pas sûr.
Ça a moins de mal.
L'idée est pas mal. Ça a marché pendant un moment, mais à un moment, je pense qu'il y a une.
Mais tu passes de 10, 50 à 11.
Ouais, mais.
Tu vois, la différence, oui, c'est beaucoup. Mais elle est pas énorme. Si tu passes de 10 à 20, crois-moi.
Un paquet de clopes à 10 balles, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Vous savez, pour quelqu'un qui en fume un par jour, c'est 300€ par mois.
Je sais, mais ce serait 600€.
C'est un quart de SMIC. Enfin, vous imaginez, enfin, vous voyez le truc, c'est un truc de fou.
Oui, mais donc c'est dissuasif.
Non, mais je pense que les gens qui sont contaminés par le tabac, entre guillemets, parce qu'ils sont addicts, c'est pas, il faudra qu'ils trouvent leur, leur nicotine et leur charbon d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que c'est plus avec la prévention sur les jeunes. Je trouve qu'on fait pas assez de prévention pour les jeunes. Je vais parler comme un vieux con, mais moi quand j'étais jeune, on y avait beaucoup de matraquage publicitaire.
Enfin, il y a que ça.
Sur la jeunesse, sur fumer.
T'as toutes les photos sur les paquets.
Non, mais la télé, tout ça.
Personne qui fume. Il n'y a plus un film avec quelqu'un qui fume.
Justement. Mais non, mais toutes les grandes campagnes, je me souviens, il y avait une cigarette écrasée, c'était un peu de liberté gagnée. Il y avait un slogan comme ça. On l'avait partout. Il y avait des images partout, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça.
Que ça fonctionnait moyen.
Oui. En tout cas, moi, je trouve que ma génération.
Une cigarette en moins, c'est quoi votre truc?
C'est une cigarette écrasée, c'est un peu de liberté gagnée.
Ouais,
une cigarette écrasée, c'est un peu de liberté gagnée.
C'est pas avec ce genre de slogan qu'on va pousser les gens à arrêter.
Surtout, ce qui a marché, c'est simple, c'est l'interdiction de fumer dans les espaces publics, les restaurants, partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où avant, tout le monde suivait au boulot.
Ça, c'est vrai. Et au cinéma.
Ça a quand même beaucoup aidé. Vous vous souvenez, moi, j'ai connu l'époque en avion, on fumait dans les avions. Mais vous vous rendez compte du truc. Donc, ça a quand même beaucoup évolué. Ce qu'il faut, c'est laisser, continuer cette partie de la population qui fume avec son vice, etc.
Vice. Mais non, mais.
Les riches.
Arrêtez.
C'est pas grave.
C'est une addiction.
Mais si, c'est grave.
Comment ça, c'est pas grave?
Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave de dire vice. Non, je veux dire, c'est pas non plus.
C'est pas un vice, le tabac, c'est un vice.
Il y a plein de gens qui disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire que quand tu mets 10
balles, tu les laisses tranquilles?
Non, c'est que tu les informes, etc. Mais c'est surtout sur la jeunesse. Et moi, l'idée de la Nouvelle-Zélande.
La jeunesse, elle pourrait pas s'offrir un paquet de cigarettes à 20 euros, tu vois.
Mais il y aura du trafic, etc. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux, par exemple, de l'interdire à la jeunesse. De retirer, de relonger chaque année l'âge à partir de laquelle on peut acheter un paquet de clopes.
Bah oui, mais comme dans ces cas-là, ils iront quand même vers la contrebande. Donc, je comprends ce que vous dites. Thierry Moreau.
Si c'est simplement une hausse du prix du tabac, ça fera baisser sans doute un peu la consommation, surtout si c'est une hausse, comme vous l'a dit, massive, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été entouré de fumeurs, et je suis entouré de fumeurs, je n'ai jamais fumé. Mais je vois bien quand j'achète les clopes pour mon épouse, quand ça augmente d'un euro ou de 50 centimes, ça passe. Si ça double, ça te fait réfléchir. Le seul problème, c'est qu'il y a deux effets pervers à ça. C'est que seuls les riches pourront continuer à fumer, ou alors les pauvres font des arbitrages radicaux en se privant d'un repas pour pouvoir fumer.
Parce qu'ils devront fumer.
Soit.
Ou ils vont vers la contrebande.
Et ça va favoriser la contrebande. Non. Il faut que ça soit un élément d'un dispositif global, comme la Nouvelle-Zélande, où on arrive à interdire le tabac, qui est une drogue. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Le tabac est une drogue. L'État est un dealer qui vend de la drogue et qui, derrière, soigne les méfaits de sa propre drogue sur des fonds publics.
Mais alors, si c'est une drogue, il suffit de l'interdire, le tabac, finalement, parce que, à force de vouloir faire des politiques publiques,
Faut l'interdire à terme.
Plus simple, ce serait de l'interdire.
Mais on peut pas l'interdire du jour au lendemain parce que ça serait trop compliqué. Il faut accompagner, comme l'a dit Fred, les gens qui sont très addicts. Mais en revanche, une politique de la Nouvelle-Zélande avec, à partir de telle date, c'est interdit. Et surtout, on prend en charge.
Mais t'interdirais pas la contrebande, donc en vrai,
Alors, c'est plus facile parce que c'est une île pour eux.
Il n'y a pas la Belgique à côté ou l'Espagne.
Très clairement. mais ça serait, c'est un objectif très louable et je pense que c'est très bien.
Perico, les gars, on passe le paquet à 20 euros, on interdit ou on laisse comme c'est?
Alors, pour ceux qui ont connu notre ancienne monnaie qui s'appelait le franc, ça ferait 130 francs le paquet de cigarettes.
Oh là 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 là.
C'est fabuleux. Alors,
et en ancien franc, je ne dis pas.
130 000.
Voilà, c'est ça.
Donc,
13 000.
Oui. Ouais, parce que j'avais 1 000 francs par mois.
Voilà, oui.
C'est-à-dire 10
francs. Ah oui, tout de même.
J'avais 1 000 francs par mois, c'est-à-dire 10 francs, c'est-à-dire 6,50
euros. Oui, bon, bref.
On va revenir.
Bon, oui, voilà.
À l'eau de tabac.
Oui.
Bon. Moi, je suis obligé de prendre contre-pied contre ce qui vient d'être dit. Que vous dire? Si on disait l'amiante est à 20 euros le kilo, donc l'amiante est interdite. Si c'est à ce point-là, effectivement, il faut interdire le tabac, il faut faire le bilan. Est-ce que ça rapporte un peu d'argent à l'État? Malgré tout.
Sans commune mesure, ça coûte.
Plus les dégâts sanitaires qui sont évidemment remboursés par la sécurité sociale. Est-ce qu'on pourrait instaurer des tickets de tabac pour commencer?
Rationner,
d'abord, voilà.
C'est un jour sans tabac.
C'est-à-dire qu'on accompagnerait le fumeur. Voilà, ça serait un paquet par semaine.
Mais t'as la contrebande.
Il y aura de la contrebande. Et puis quand on aura.
Donc c'est pas efficace.
Alors, le problème, c'est qu'on va autoriser la marijuana.
C'est pas fait.
Mais on est plutôt dans cette tendance pour casser. Et au moment où on dit, par contre, faut interdire le tabac. Voilà. Est-ce que si on autorise l'un, on peut interdire l'autre? C'est quoi l'enjeu social?
Le tabac, c'est quoi?
C'est quand même, le tabac, c'est quand même le feu de fumer. Ce qu'il faudrait, c'est apprendre à fumer, comme boire, modérément. Voilà, est-ce qu'on peut fumer de temps en temps une cigarette? Je sais que ça fait du bien à des gens, c'est un rituel, c'est une drogue à ce moment-là. Ça veut dire que l'alcool aussi est une addiction. Oui, Or, tu sais que je bois, je déguste du vin. Tout sauf comme une drogue et sans aucune addiction. Et pourtant, je sais qu'au-delà d'un certain seuil, ça me fait du mal. Est-ce qu'on pourrait rationaliser la consommation du tabac? Alors, c'est pas seulement le prix, c'est la fréquence de consommation.
Non, mais après, vous avez des solutions pour lutter contre la contrebande. En fait, il y a une solution, c'est-à-dire qu'on voit très bien quelqu'un qui fume dans la rue. Je veux dire, c'est impossible à cacher. Il suffit simplement d'interdire, par exemple, de fumer dans la rue, tout simplement, dans tous les espaces publics. C'est-à-dire que vous avez le droit de fumer uniquement chez vous. Et ça permettrait, là, pour le coup, vous luttez contre la contrebande parce que vraie cigarette, fausse cigarette, interdiction pour tout le monde.
Ce que disent les médecins, c'est que c'est pas un moyen pour lutter contre le tabac. C'est tout un panel. C'est le prix.
Absolument.
C'est
la
prévention, c'est restreindre peut-être, c'est ce que disaient certains médecins, restreindre la vente, compliquer la vente, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va décourager un certain nombre de personnes. Exactement. Moi, je suis fumeur depuis de nombreuses années. Je fume aujourd'hui depuis de nombreuses années des roulés. Et les gens qui fument des roulés le savent. Moi, ça me revient à une quinzaine d'euros par semaine.
Ah, quand même.
Mais c'est
60 euros par mois, quand même.
Oui, non, mais on est d'accord.
En tout cas, c'est
encore abordable. Et si demain on doublait.
C'est une semaine de vacances.
Non, mais si demain on doublait le paquet de tabac roulé, par exemple, là, ça commencerait vraiment à me faire réfléchir.
Et priser, on pourrait pas priser.
Ah.
Ou chiquer.
Comme les Allemands.
Chiquer, c'est très bien.
Chiquer, c'est bien.
C'est élégant.
Alors, on est avec Bruno. Bruno, il nous appelle de Perpignan et il est pas content, Bruno. Il est pas du tout content de ce sujet parce que, Bruno, il est buraliste. Alors, évidemment, ça ne lui plaît pas.
Non, mais justement, bonjour, je ne veux pas lui faire de mal.
Allô, oui, bonjour.
Ça va, Bruno?
Moi, ça va très bien. Mais bon, sauf que, bien sûr, vous pensez à poser cette question de passer le paquet à 20 euros. Alors, j'ai entendu tous vos arguments.
Ouais.
Ils sont dans l'ensemble corrects. Ah. Mais effectivement, c'est vous qui êtes le plus au fait. C'est-à-dire, je vais commencer par une chose. Déjà, pourquoi pas la bouteille alors de vin à 60 euros?
Mais pourquoi pas?
D'accord,
c'est pas pareil. Enfin, il y en a à 60 euros, Bruno.
Non, le tabac tue 75 000 personnes par an. L'alcool fait 60 000. On n'est pas très loin. D'accord?
Absolument. Bon, Complètement d'accord.
Attends, continue, Bruno.
Alors, on détruirait d'abord une filière qui est quand même au niveau de la renommée mondiale. Je parle du vin, etc., qui est quand même un savoir-faire, une filière, des emplois, etc. Le tabac, effectivement, c'est une addiction. Et une filière aussi où à 24 000 bureaux de tabac, ça fera des emplois en moins, des familles à la rue, etc.
Après, on produit assez peu de tabac en France quand même.
Oui, non, mais je parle des buralistes.
Alors,
je parle de tout le réseau des buralistes. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est? Effectivement, vous ne pouvez pas augmenter massivement le prix du produit du tabac parce que la contrebande est exponentielle.
Oui, bien sûr.
Et plus vous montez le prix, et plus la contrebande est exponentielle. On n'arrive pas déjà à endiguer la marijuana qui arrive de tous les côtés, d'accord ? Par la mer, par tout ce que vous voulez, par l'Espagne, tout ce que vous voulez. Et on voudrait augmenter le tabac et laisser aux mains de crimes, de criminels, de réseaux mafieux, avec en plus tous les trucs, les gens, automatiquement, et nous le savons très bien, je suis à Perpignan. Nous avons déjà l'effet frontière qui existe tout le temps, ok? Mais nous avons laissé énormément. Vous avez en France des milliers, et plus que les bureaux de tabac, d'épiceries de nuit, qui vendent du tabac en contrebande.
Bien sûr.
Et jamais personne, ni surtout les anti-tabac, ne se sont attaqués à ce problème et ne montrent pas. La seule chose qu'ils disent, on a monté le prix. Et les fumeurs, et ça a baissé. Sauf que le seul élément qu'ils ont pris, c'est les ventes légales.
Tout à fait.
Donc, effectivement, les gens se tombent à la contrebande, ce n'est pas enregistré, et les ventes légales, bien sûr, automatiquement à la CETA, elles descendent. Voilà. Donc, on dit qu'en France, le fait d'augmenter le prix tabac fait baisser la consommation.
Non, ça baisse plus.
Voilà, ça bascule, on est bien d'accord.
Ça ne baisse plus, pardon. Ouais, depuis 4 ans.
Or, la prévalence tabagique, c'est ça le baromètre, est toujours le même. Donc, ça veut dire bien qu'il y a bien un effet de report sur la contrebande ou sur les achats transfrontaliers par Internet aussi, d'accord? C'est très facile. Je vous engage
à le faire. On peut acheter ses cigarettes par Internet?
Allez-y, tapez là quelqu'un pendant un instant, en deux secondes, tabac et compagnie, vous allez trouver quelqu'un qui va vous vendre du tabac par Internet.
Tapez,
oui. Voilà. Ensuite, vous avez, et toujours, vous dites, le Nouvelle-Zélande, je suis d'accord, mais la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, on prend toujours l'exemple des îles. D'accord? Nous avons la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne qui vendent moins cher.
Et
la Corse qui bénéficie toujours du décret napoléonien où les taxes sont moins chères sur le tabac. Bon, qui vont être normalement régulières en 2025, si mes souvenirs sont bons. Donc, augmenter massivement le prix du tabac, ce n'est pas une bonne solution. La solution, ça fait 20 ans que je l'ai dit. Excusez-moi, parce que moi, j'ai connu, justement, j'ai assuré mon tabac en 2001, et vous avez eu le plan cancer de Jacques Chirac en 2023. D'accord, on a pris déjà 40% dans la tête au niveau de l'augmentation. La seule solution, on le dit depuis des années, c'est effectivement la prévention. Et la prévention, c'est quoi? Ok, je suis d'accord. Qui c'est qui l'a dit tout à l'heure sur les affiches
Les affiches et fumées dessus, c'est moi.
Voilà, la prévention. Mais vous avez en Allemagne, qui a une prévalence tabagique de 18%. D'accord. Où le prix du paquet est moins cher chez nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans les collèges et dans les lycées? Ils ont un référent addiction.
Oui, c'est ce que disait Fred. Non, mais bien sûr, mais vous avez raison, Bruno. Mais après, personnellement, je pense qu'il faut, mettre un petit peu de tout. La prévention toute seule ne résoudra pas l'augmentation du prix non plus. Il faut faire un espèce de package. Merci, Bruno, en tout cas, de nous avoir exposé vos arguments dans Estelle Midi. Les arguments vont peut-être pas être les mêmes du côté de Loïc Josserand. C'est notre invité. Il est président de l'Alliance contre le tabac et professeur de santé publique. Bonjour, Loïc Josserand.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On n'est pas tous d'accord sur le plateau. Est-ce que ça servirait à quelque chose, Loïc Josserand, de passer le paquet de cigarettes à 20 euros?
Bien sûr que ça servirait à quelque chose. Et là, nous avons eu droit quand même à un grand numéro de l'industrie du tabac dans les propos qui viennent d'être alignés systématiquement. C'est absolument remarquable. Déjà, on commence par détourner l'attention du problème en disant qu'on va détruire une filière en parlant de l'alcool, donc il n'a absolument rien à voir. À part les buralistes en France, personne, et l'industrie du tabac, personne ne gagne d'argent avec le tabac.
C'est ce qu'on a dit, d'ailleurs.
Là, on est bien d'accord et on est vraiment dans la défense d'un business particulier. Les buralistes sont les premiers responsables à travers notamment la vente de tabac aux mineurs. Il faut rappeler que les deux tiers des buralistes vendent sans aucun contrôle le tabac aux mineurs.
Donc mais les mineurs, ils pourraient se fournir en contrebande aussi.
Non. Alors attendez, on va arriver à la contrebande pour le coup. La contrebande, il y a une étude de Santé publique France entre 2014 et 2021 qui montre Santé publique France.
Ouais, bien sûr.
C'est a priori, on peut lui faire confiance en matière de chiffres. Donc entre 2014 et 2021, la part de tabac acheté dans les réseaux légaux est de 80%. Elle varie à 1% près d'année sur une année, mais on reste à 80%. Okay. Première chose, les 20% supplémentaires, ils se décomposent avec 15% qui sont les achats transfrontaliers. Mm-hmm. Donc ça, c'est un problème de frontières européennes. Ouais. C'est légal, c'est purement légal. La contrebande et ces histoires-là, c'est à peine 1% derrière.
Okay.
Ah, une fois qu'on a enlevé le duty free, tout le reste, c'est 1%. Donc il faut arrêter d'écouter les argumentaires de l'industrie du tabac qui nous explique que ça augmente de façon exponentielle. Tout ça n'est qu'une manipulation de chiffres faux qui sont produits à partir de l'industrie, qui sont des données commerciales, qui sont manipulées comme on le souhaite et qui ne sont jamais validées scientifiquement. Ensuite, pour ce qui est de l'impact et des fameux fumeurs cachés, la prévalence, je pense que quand on tend un micro à quelqu'un ou quand on lui demande dans une étude de Santé publique France s'il est fumeur ou non fumeur, il va se déclarer fumeur quelle que soit l'origine du tabac qu'il va consommer. Il n'ira pas se déclarer non fumeur sous prétexte qu'il a acheté son tabac contre côté de la frontière. Donc ça, il n'y a pas de stock de fumeurs cachés en France. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est encore une faribole de l'industrie du tabac. Il faut tordre le cou à cette idée-là. Ce qui est du coup, le coût, ça coûte extrêmement cher. Ça nous appauvrit tous. 15 milliards
de taxes. C'est énorme.
15 milliards de taxes, ça rapporte à l'État, ça en coûte ne serait-ce que sur la santé 30 milliards. Ouais. Le coût social complet du tabac, c'est 120 milliards. C'est-à-dire que vous, comme moi, je paye 2000 euros par an de méfaits du tabac.
C'est plus que ce que coûte la réforme des retraites. Enfin, je veux dire,
si on s'intéressait à ça, on réduirait déjà une belle partie de notre déficit. Quoi. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, augmenter le paquet. Oui, augmenter le paquet. On sait très bien qu'augmenter le paquet de 10%, ça fait baisser la consommation de 4%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Ce sont des chiffres officiels validés dans X endroits. Donc ça, c'est effectivement un effet et c'est une des mesures qui est parmi les plus efficaces. Après, j'ai entendu quelqu'un qui disait fumer va être un sport de riche. Fumer, les riches, ils ne fument déjà plus, quoi. On est dans un de 1 à 2.
Non, ouais. il vapote plus, effectivement, que les catégories ouvrières.
Mais plus on descend dans l'échelle sociale, plus la consommation de tabac est importante. Et on est dans un rapport de 1 à 3. Donc, faut-il laisser aux motifs qu'ils sont précaires ou en situation difficile, les plus fragiles, exposés à ce truc-là, qui détruit la vie, qui détruit la santé, qui détruit tout. Faut-il, sous prétexte qu'ils sont fragiles, leur dire « Ah, mais mon pauvre ami, tiens, vas-y, fume. Toi, t'es pauvre, mais au moins, on va continuer à te garder ce petit plaisir. » Ce plaisir qui va le tuer, et il n'aura même pas le temps de profiter de sa retraite. Donc vraiment, c'est le cynisme absolu de vouloir laisser penser que, sous prétexte de précarité, il faut laisser fumer les pauvres. C'est vraiment d'un cynisme absolu.
Alors,
ça, c'est... Oui, pardon.
Oui, je voulais juste vous faire écouter Louis Josserand, le témoignage de Cédric. Parce que Cédric, il nous a appelé au 32-16, il nous appelle de Fès de Bretagne, en Loire-Atlantique. Et Cédric, il a été fumeur pendant très longtemps, jusqu'au moment où il a fait un infarctus. Bonjour Cédric.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour. Bonjour.
Alors Cédric, racontez-nous vous, ce qui vous est arrivé et finalement pourquoi vous avez arrêté de fumer.
Alors moi je viens d'avoir 39 ans le 3 mai et j'ai fait un infarctus le 8 mars.
Ouais.
Et suite à cet infarctus, donc on m'a posé des stents dans les artères, j'ai fait de la rééducation cardiaque pendant un mois et ce qu'on voit en rééducation, ça vaut beaucoup plus que le prix du paquet de tabac, c'est beaucoup plus dissuasif que le prix du paquet.
Parce que vous avez fumé combien de temps, Cédric ?
Alors, j'ai fumé pendant 25 ans.
Ah,
et pas que du tabac.
D'accord, ok. Ok. Et vous avez fait un infarctus à moins de 40 ans, donc ?
Voilà, c'est ça.
Et en fait, quand vous dites « ça m'a fait réfléchir », en fait, plus que l'augmentation du prix du tabac, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrêté ? C'est simplement que vous êtes dit, vous avez pris conscience que vous pouviez perdre la vie, quoi.
Exactement, j'ai un enfant qui a 12 ans, j'ai pas 40 ans, et un infarctus pour moi c'était plus pour les personnes plus âgées, et quand ça tombe sur soi, ça fait réfléchir, et quand on voit les malades, les amputés, tous ceux qui ont des problèmes à cause du tabac, ça fait beaucoup plus réfléchir que le prix, parce que le prix, on peut toujours s'arranger pour en trouver au marché noir, et quand on est fumeur et qu'on a besoin, on trouvera toujours du tabac pas cher dans la rue, ou voilà.
Alors on va pas souhaiter évidemment, Cédric, à tous les fumeurs d'avoir un infarctus pour s'arrêter de fumer, mais ce que vous aimeriez, j'imagine, c'est qu'il y ait plus de prévention et peut-être plus d'images choc, en fait.
Exactement. Il faudrait que vraiment les jeunes, on puisse les envoyer soit dans les centres de rééducation pour voir les conséquences. Enfin oui, plus de prévention et voilà. Mais le prix du tabac, ça n'arrêtera pas les gros fumeurs,
non,
malheureusement.
C'est un outil en plus.
Ouais,
c'est un outil parmi d'autres.
Mais c'est sûr. Alors maintenant, par exemple, devant les grands hôpitaux, il est interdit de fumer. Moi, j'ai été très souvent à l'hôpital de Villejuste, qui est un centre anti-cancer. Et quand vous voyez, j'étais il y a 10 ans, et quand vous voyez des gens à l'époque, des gens fumer devant l'hôpital, je vous assure, quand vous voyez des gens qui fument avec leur comment on dit, leur goutte à goutte, etc., et qui sont en blouse, et là vous avez une image.
C'est une drogue.
Vous passez devant ça, vous avez envie de vous arrêter de fumer, mais direct, c'est effectivement des images très fortes. Et merci pour ce témoignage, Cédric, parce que je vais rebondir sur votre témoignage avec Loïc Josserand. Est-ce que la solution, Loïc Josserand, bien sûr, il y a l'augmentation du prix des cigarettes, mais c'est à un moment arrêter d'être dans le monde de oui-oui, quoi, et dire les choses aux gens. Alors, il y a les petites photos sur les paquets de cigarettes, mais vous pouvez mettre des surpaquets qui font qu'on ne voit pas les photos. Mais peut-être balancer des campagnes de prévention et de com bien plus dures, bien plus efficaces que ce qu'elles sont aujourd'hui.
Les campagnes très dures, ça marche pas forcément, puisqu'on ne les voit pas. Quand on ne veut pas voir quelque chose, c'est une image qui finalement arrive à être tellement violente.
Un 4 par 3, vous le voyez, hein.
Oui, mais on ne l'intègre pas. Elle est tellement violente qu'elle vous choque et vous ne voulez pas la voir. Vous ne l'intégrez pas. Il y a des endroits, ça peut marcher. Sur certaines personnes, ça peut marcher, mais on se rend compte que ça n'est pas forcément, d'un point de vue efficacité et scientifique, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. On est choqué, mais on ne l'intègre pas. En revanche, ce vers quoi il faut aller, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est effectivement de la prévention, mais passe par cette prévention. Déjà, la dénormalisation, ce qu'on appelle la dénormalisation, qui revient vraiment à montrer ce qu'est réellement le tabac, et c'est dans le témoignage de votre auditeur qui est dit, c'est-à-dire le côté maladie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'absence de la perte de la liberté, parce qu'on se retrouve complètement entravé par cette addiction et par le besoin de fumer de façon régulière et voire permanente. Il faut voir que ça pille la jeunesse chez nous, effectivement, qui va être malade demain, mais ça pille aussi la jeunesse à l'autre bout de la planète, qu'on exploite dans des champs de tabac dans des conditions absolument déplorables, qu'on va déscolariser, qui vont des gamins de 10-12 ans qui sont exploités dans des champs, la maladie de la main verte, qui vont être malades comme des chiens, enfin c'est inadmissible. C'est une destruction planétaire, déforestation, gabegie en matière d'eau pour fumer le tabac, sécher le tabac, on déforeste pour fumer le tabac dans les endroits déjà déserts. Enfin, c'est une hallucination totale de tout ce que ça peut être. Sans compter la pollution aux mégots, qui est le premier déchet plastique de la Méditerranée, sont les mégots, quoi.
Ça pollue 500 litres d'eau.
Ça pollue 500 litres de flotte avec tout ce qu'il y a dedans, quoi. C'est une destruction partout de la vie, partout. Donc, il faut qu'on aille vers cette dénormalisation et que tout le monde la comprenne, mais aussi qu'on aille à un moment, quelqu'un a évoqué, j'ai malheureusement pas pu saisir le nom, la notion de décommercialisation. La décommercialisation, c'est effectivement ce dont on est engagé aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine année de naissance, on n'a plus le droit d'acheter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de consommer, on n'a plus le droit d'acheter. Or, on sait très bien que en réalité, ça n'est que l'application stricte de l'interdiction de vente aux moins de 18 ans. Pourquoi ? Parce que les fumeurs commencent très majoritairement, à plus de 90%, à fumer avant 18 ans. Bah, donc, bah oui. Ils commencent avant 18 ans. S'ils ne commencent pas, voilà. S'ils ne commencent pas avant 18 ans, si autour d'eux, ils sont entourés de gens qui eux-mêmes ne fument pas. Il n'y a pas l'influence des pères. Est-ce que, à 20, 25 ans, on aura envie de se mettre à cloper? Et est-ce qu'on se sentira quelque part privé de liberté sous prétexte qu'on n'a pas envie d'acheter ça? Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous faites du parachutisme? Est-ce que vous faites du parachutisme?
Non, mais je suis pas interdit.
Si je vous interdis d'acheter un parachute, est-ce que ça vous allez vous sentir limité dans votre liberté, quoi?
Ben non.
Ben voilà. Et ben c'est exactement la logique de la décommercialisation. C'est un produit dont on n'a pas besoin, qui n'est pas indispensable à la vie. Ça n'est pas un produit primaire. Donc débarrassons-nous-en définitivement, quoi.
Ben merci beaucoup, Loïc Josseron, président de l'Alliance contre le tabac et professeur de santé publique. Alors on vous a posé la question sur le compte Twitter de l'émission. Faut-il passer le paquet de cigarettes à 20 euros?
Il va encore falloir convaincre. C'est le non qui l'emporte pour 55% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Donc on a 55% de gens qui nous regardent qui sont fumeurs. C'est toujours bon à savoir.
Ou parents buralistes.
Hein, ou buralistes, oui, c'est exactement. Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On parlera d'Emmanuel Macron qui a recadré très sèchement sa première ministre, Elisabeth Borne. Et puis, on vous racontera l'histoire d'un petit village dans le Calvados où il y a quand même 10 panneaux stop installés sur juste 200 mètres. Ça fait, autant vous dire que ça fait beaucoup d'arrêts. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est ensemble jusqu'à 15h, midi 15h, comme chaque jour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, il est 13h33, c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commenter tous ces extraits sur RMC de dernière 24 heures avec Rémi Barré, Perico Légas, Thierry Moreau et Fred Hermel. On va commencer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin et on va revenir sur la polémique lancée par Elisabeth Borne dimanche dernier. Elle avait qualifié le RN d'héritier de Pétain, porteur d'une idéologie dangereuse sur Radio J. Hier, en Conseil des ministres, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a recadré Elisabeth Borne. Un recadrage tout à fait normal pour cet auditeur qui en a profité pour pousser un coup de gueule ce matin chez les GG.
Eh bien, moi, je trouve qu'il a eu raison. D'ailleurs, ça faisait un moment que je voulais vous avoir au téléphone afin de vous demander d'arrêter de nous traiter d'extrême droite. Moi, je suis juste électeur, je suis pas sympathisant, j'ai pas ma carte, mais j'en ai ras-le-bol. Parce que un petit message à Elina. Elle devrait aller voir le nombre de socialistes qu'il y avait sous le gouvernement de Pétain, avec Mitterrand en 81, Mitterrand qui est le pape des socialistes, qui a eu la franquiste. Et moi, je ne rappelle jamais tout ça. On est sans arrêt en train de répéter la même chose. Et moi, je suis fatigué. Moi, je me sens insulté quand on me traite d'extrême droite. Je me sens insulté parce qu'un parti d'extrême droite, c'est Zemmour. Zemmour, j'ai été très fier quand Marine Le Pen elle a dit qu'il ne serait pas Premier ministre et qu'il ne serait pas dans son gouvernement. Parce que moi, si c'était le cas, j'aurais pas voté pour elle au deuxième tour. Ça aurait été hors de question. Donc maintenant, il faut arrêter. Moi, je suis fatigué de tout ça.
Et Emmanuel Macron qui a assuré Elisabeth Borne de tout son soutien il y a quelques instants. Alors on sait qu'en football, par exemple, quand un président assure son entraîneur de tout son soutien, il est viré 2 semaines plus tard. Perico Légas.
Comme la Corse soutient le pendu, vous connaissez la formule.
Exactement. Perico Légas, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de recadrer Elisabeth Borne en plein Conseil des ministres, sachant évidemment pertinemment que ça allait sortir dans la presse quelques heures plus tard?
Oui.
Ah bon?
Oui, parce qu'elle a commis une erreur politique. Voilà. Elle a commis cette phrase-là, est une erreur politique majeure. C'est le genre de phrase qui fait que le Front National, moi j'utilise encore le mot Front National, Rassemblement National, grimpe, ça ne le freine pas, ça ne convainc pas les Français.
Bon, ça ne le fera pas grimper non plus.
Et voyez la réaction, le nombre de gens qui se sentent insultés. Voilà. Il y a eu, en 72, à la fondation du Front National, des gens qui avaient collaboré, qui avaient été même peut-être certains, à un moment donné, qui avaient pu être pro-nazis.
Ouais,
mais il y avait aussi beaucoup, j'ai cité, il y avait 45 anciens résistants, des gens déportés, qui ont bien de la libération.
Mais, sauf qu'entre 1942 et 1972, il y a 30 ans, durant ces 30 ans, il n'a pas échappé qu'il y a eu la guerre en Algérie. Et qu'un certain nombre de résistants ont vrillé vers l'extrême droite au moment de la guerre d'Algérie, ont rejoint l'OAS, etc.
Non, mais là, on fait pas un débat sur
l'extrême droite. Et comme la gauche elle-même a collaboré, et que les grands leaders de la collaboration des Adorio étaient socialistes et communistes, n'abordons pas ce sujet pour combattre le Rassemblement National. Allons sur. Il y a suffisamment d'éléments de polémique et de controverse avec ce parti politique pour qu'elle aille. Elle est première ministre de la République. Elle est la première ministre de la République. Elle ne peut pas dire à 42% des Français, vous voté pour un parti qui a été pété ou qui est pétiniste. Ce n'est pas vrai.
C'est l'héritier de Pétain.
Eh ben, c'est pas vrai. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas
vrai.
Non, il y a un débat que je veux bien avoir. Et effectivement, il y a eu des collabos dans les fondateurs du Front National. Mais elle peut pas dire ça, le Premier ministre.
Et est-ce que Emmanuel Macron est obligé de l'humilier en Conseil des ministres, genre devant tout le monde?
Il est obligé de réparer la bourde majeure qu'elle a fait.
Mais attends, il peut l'appeler, non? Il a pas le téléphone, Emmanuel Macron.
Non, il est obligé de dire aux Français, ma première ministre a l'humilité.
Il le dit, alors attends, non, il le dit pas aux Français. Non. Il le dit au Conseil des ministres en espérant que ce soit.
Non, mais c'est très bien que ça va être pris. C'est fait exprès.
Oui, mais donc c'est hypocrite. Soit tu dis aux Français, ma première ministre a commis une erreur.
C'est un coup de vache.
C'est un coup de vache. Elle-même.
Je pense qu'elle va partir d'elle-même. Je pense qu'avec deux, trois coups comme ça, elle va peut-être te dire j'ai plus ma place. Non, peut-être que c'est pour la. C'est peut-être uniquement pour la pour l'user. Hein.
Moi, j'ai été choqué par la méthode. Je suis tout à fait d'accord. C'est une erreur politique. Mmh. Enfin, moi, si un jour je fais une bêtise dans cette émission, j'espère qu'Estelle, tu me diras après l'émission, écoute, j'ai pas aimé ce que t'as fait, nanana.
En direct.
Je pense que.
Elle peut lire à l'antenne.
Le nombre de fois.
Je le dis aux Français.
Le nombre de fois, ouais.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est pas très élégant de la part du président.
Si je juge que tu dérapes, je le dis à l'antenne. Non, je mais pas grave,
mais
non,
oui, mais bon. Mais là, enfin, je pense que c'est pas très bien.
Il a fait sciemment.
Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron le fait souvent.
Il l'a fait sciemment.
Il a humilié les gens qui travaillent pour lui. Ben oui, mais il a pas à le faire devant tout le monde. Alors, moi, je pense qu'il faut. Je termine ma phrase. Je pense que s'il avait quelque chose à faire, il aurait dû lui dire directement. Voilà. Après, et s'il veut lui la reprendre sur le sujet, qu'il en parle lors d'une prochaine interview.
Oui.
Puis comme les questions sont négociées avant, etc., il dit bah oui, j'aimerais bien revenir sur.
Là, il voulait.
Non, mais je veux dire, si le président dans sa prochaine interview dit j'aimerais aborder le thème du Rassemblement National, le journaliste va lui poser la question et il aura l'occasion d'exprimer.
Non, parce qu'il devait être après à chaud l'erreur qu'elle a commise.
Exactement. Il l'a fait de façon subtile. On sait très bien.
Il a envoyé un communiqué.
On sait très bien que dans le Conseil des ministres, il y a des choses qui se disent et qui ne sortent pas. Si ça sort, c'est qu'on a voulu que ça sorte.
Bien sûr.
Donc le recadrage se fait de manière indirecte, ce qui est plutôt habile politiquement. Après, je rejoins de ce que dit Péricot, c'est une erreur politique majeure. Mmh. Effectivement, il y a probablement des pétinistes qui étaient là au moment de la création du National.
C'est factuel.
Il y a probablement aujourd'hui dans l'entourage et au Front au Rassemblement National quelques nostalgiques encore de cette période-là.
Évidemment.
Ça, c'est incontestable. Est-ce que 13 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National la dernière fois sont des fascistes ou des pétainistes? Non. La réponse est non, évidemment. Et on ne combat pas le Rassemblement National avec ces arguments-là.
On a essayé, ça donne rien.
On les combat pied à pied.
C'est comme le tabac.
Il y a plusieurs jours, il y avait un journaliste qui avait en face de lui, alors quelqu'un qui n'est pas du Rassemblement National, Éric Ciotti, mais qui donnait des contre-vérités sur l'immigration, et pied à pied, argument par argument, le journaliste a démonté tout ce que disait le modèle danois, etc., etc. Eh bien, c'est comme ça qu'on luttera contre le Front National. Le Rassemblement National.
Juste pour préciser, il y a certainement une maladresse politique, une erreur politique de la part de la Première ministre, mais je tiens à préciser comme elle n'a pas dit aux électeurs, ceux qui votent pour le RN sont des pétainistes ou des fascistes. Elle a dit que parti, on lui a posé la question, est-ce que ce parti, c'est sur Radio J, Radio de la communauté juive.
C'est notre collègue Aziza qui lui a posé la question.
Est-ce que ce parti est héritier du pétainisme? Elle a dit oui. Est-ce que elle a ajouté, ce parti, pour moi, est un parti dangereux.
Oui.
Voilà.
Bon. Je ne la voyais pas dire non plus. La question est piégeuse. Elle aurait pu dire, c'est peut-être, mais elle a voulu répondre de façon, mais ensuite, elle s'est enferrée, et puis elle,
Extrait des GG ce matin. Faut-il aller plus loin en matière de sécurité routière? Après les 30 km/h, certaines mairies prennent des décisions encore plus dures afin d'obliger les automobilistes à ralentir. Exemple à Éperon, c'est dans le Calvados, où 10 panneaux stop ont été installés sur 200 m. Une installation inutile pour Kevin. Il est habitant de ce village et il témoignait ce matin chez les Grandes Gueules.
C'est une petite résidence, un petit quartier résidentiel très calme. Les gens passent, mais c'est la majorité des gens, ce sont des riverains. C'est absolument pas une route qui fait un détour ou qui va quelque part justement pour éviter les bouchons. Bien au contraire. Et le truc, c'est que ces stops-là, en fait, sont pas du tout respectés. Donc c'est encore plus dangereux qu'avant parce que les gens ne comprennent pas trop comment faire. Parce que non seulement ce sont des stops installés, mais ce sont des stops temporaires en fast-test. Donc en fait, ce sont des marquages jaunes que les gens ne comprennent pas. Et en plus, ce sont pas des stops plantés dans le sol, ce sont des stops mis sur une petite butte en béton, enfin un petit truc en béton pour éviter que ça s'envole. Sauf que récemment, ils ont été volés, ces stops-là. Et donc, du coup, il y a juste les marquages aujourd'hui. Et c'est dangereux.
Stop. C'est une bonne initiative, c'est 10 stops sur 200 mètres. Est-ce qu'on est en train de faire n'importe quoi, Thierry Moreau?
Je pense qu'il y a certains maires qui sont démunis devant l'incivilité, les voitures qui roulent très très vite. Moi, dans mon village, devant chez moi, c'est limité à 30. Et il y a des voitures qui arrivent à toute vitesse alors qu'il y a des enfants qui font le chemin entre l'arrêt de bus qui est au bout de la rue et le village qui est au centre. Donc, je pense que les maires sont un peu démunis. Je pense qu'ils... Pardon ?
Non, rien.
C'est un problème de comportement. Je pense qu'il faut effectivement se battre contre... Effectivement, j'étais contre le 30 km/h partout dans toutes les villes, mais en revanche, il y a des endroits où ça doit être respecté. Eh ben, des flashs automatiques. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, dès que vous dépassez la limite, vous avez une verbalisation. Point barre.
Il faut arrêter les idées un peu foutraques, finalement, Frère Dermel.
Moi, je trouve que, moi, j'aime quand les responsables politiques sont pragmatiques et pas dogmatiques. C'est-à-dire que, ben, voilà, il y a des, on sait très bien, par exemple, il y a des routes où c'est hyper dangereux, ben là, on prend des mesures, etc. Mais il faut que ça marche. Enfin, j'ai l'impression d'avoir découvert l'eau chaude, là, l'eau tiède plutôt. S'il y a un problème sur cette route, voilà, on fait ce qu'il faut.
Parce que par exemple, les ralentisseurs, eh ben, ça fait quelquefois plus de bruit.
Ah, mais ça, c'est insupportable pour les gens qui habitent à côté.
Donc, voilà.
Non, mais il faut être pragmatique et pas dogmatique. Et j'ai l'impression que dit stop, c'est du dogmatisme.
Perico, vous qui êtes résident d'une toute petite ville, justement à la campagne.
En plus, je constate les excès de vitesse, je constate tous les efforts du ministère de la Mobilité. Je pense que nous arriverons un jour au sketch de Raymond DeVos avec le rond-point que des sens interdits. On rentre dans un rond-point, on ne pourra pas en se
rendre. On tourne.
Voilà, et à ce moment-là, ça sera aussi une solution. Autant rendre là à ce moment-là.
Ça, c'est Paris, hein, ça s'appelle.
D'accord. Non, j'en ai dans ma région. Il y a quatre stops, j'en ai.
Bien sûr.
À côté de chez moi.
Quatre stops.
Absolument.
Il y en a de plus en plus. Enfin, moi, j'en vois de plus en plus dans les villages, dans les Hauts-de-France, j'en vois de plus en plus.
C'est très compliqué.
La nouvelle mode, il y a eu la mode des
ronds-points.
Alors, il y a mieux. Les ronds-points, et maintenant, c'est beaucoup de stops.
Le plus efficace, c'est l'écluse. C'est-à-dire du stationnement, vous voyez, en quinconce.
Ah, je croyais que vous vouliez mettre une écluse, histoire de faire tomber les voitures dans le. Oui, d'accord.
C'est dangereux.
L'écluse, c'est dangereux.
Ah, bah oui. Pourquoi c'est dangereux?
Parce qu'on peut se noyer.
On roule vite.
Non, parce qu'on roule vite, justement, ouais. Mais on crée des sacrés accidents. Bah ouais.
On n'a qu'à pas rouler vite.
Comment ça, c'est facile à dire.
Tu peux pas rouler vite avec l'écluse, parce que tu es obligé de faire un zigzag.
Nous allons terminer avec un extrait d'Apolline Matin, ce matin sur RMC. Et le retour d'un accessoire que l'on pensait terminé, totalement has-been. Mais cet accessoire, il était très populaire dans les années 80. Perico, Thierry et Fred en ont forcément porté une. Cet accessoire, c'est la banane et la sacoche banane. Et bien, sachez qu'elle fait son grand retour et Charles Manin nous explique pourquoi.
Je l'ai vu.
D'abord, l'histoire du sac banane, adopté dans les années 80 par les skieurs, puis les randonneurs. Bon, elle était clairement passée de mode.
Parce que c'est commode, hein.
Parce que c'est
pratique.
C'est
pratique.
Mais alors là, 2023, c'est pas seulement pratique, c'est la mode. Gucci, Prada, Louis Vuitton, toutes les maisons de haute couture ont sorti cette saison leur sac banane. Les stars s'affichent avec et les Français s'y sont mis. Et si on en croit les reportages, le sac banane séduit toutes les générations et tous les genres. C'est devenu le sac à main no gender pour hommes et femmes, nous dit un spécialiste. Alors attention, si comme Manu Le Chip, vous êtes sur le point de l'adopter,
il est à deux doigts là.
Évitez, et il faut éviter, Manu, le fashion faux pas. En 2023, la banane ne se porte surtout pas autour de la taille.
Mais non, Manu, c'est fini ça. Mais oui, la banane en bandoulière, évidemment, ça séduit quelqu'un là sur ce plateau.
Je n'ai jamais eu de banane, je n'en aurai jamais. Et là, je peux le dire pour une fois, non, c'était pas
mieux
avant.
C'est très passé quand tu pars et tout. Par exemple, tu pars en voyage à l'étranger, tu as toujours ton argent, tu mets ça en dessous un pull.
Bah, dans ta poche.
Mais non, dans la poche avec tous les.
Non, je trouve ça immonde. C'est le lait.
Puis
à un moment, tu te la fais piquer et tout ça, non?
Enfin, tu te la fais pas piquer parce que ça sert justement à mettre ton argent.
C'est horrible.
J'ai jamais porté de banane. Karl Lagerfeld disait le jogging est une défaite de la mode. Je pense que la banane est aussi une défaite de la mode.
On se pratique.
C'est le symbole du plouc.
La banane, c'est ploucissime.
Ouais. Alors, je vais vous dire, parce que je suis dans le paradoxe aujourd'hui, je préfère la banane au sac à dos que je prends dans la gueule, dans le train, dans le métro.
C'est insupportable, ça m'énerve.
Alors, une petite banane ici, tranquillement.
Enfin, un sac à dos, comment vous faites pour mettre votre
ordinateur? Non, mais je sais pas, mais les gens qui n'avaient rien du tout, surtout avec des sacs à dos, ils font 100 mètres
sur un
qui sont là. La claque, comment? Oui, un porteur, un Sherpa. Non, mais le sac à dos, c'est insupportable. Et la casquette. Et alors, la casquette de baseballeur, vous voyez. Et le sac à dos. Le béret, des chapeaux.
Les baskets de sport que mettent les jeunes.
C'est un papier maïs, le béret, la France qui est là, France qui vibre.
Enfin, le sac à dos, c'est très pratique.
Non, mais c'est ignoble.
Et la baguette,
c'est
un scandale.
La baguette fraîche et non pas de chez Bridor. Non, mais voilà.
Les gens ne plus que des jeans, c'est terrible.
Bon, terminé. Il y a marqué finish sur l'écran, ça veut dire que c'est fini.
Stop,
pourquoi? Parce qu'après, il ne restera plus de temps à Stéphane Pedrazzi pour nous parler d'un truc génial. Pourtant, il apporte toujours des mauvaises nouvelles, Stéphane. Ben là, c'est une bonne nouvelle. On va bientôt pouvoir résilier nos assurances en trois clics. Vous voyez sur ordinateur, clic, 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 tac, résilier, terminé. Stéphane nous explique tout dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi.
La Minute Conso.
Et un changement aujourd'hui dans la Minute Conso. D'habitude, Stéphane Pedrazzi ne nous apporte que des mauvaises nouvelles. Et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, Stéphane. C'est un changement, c'est une révolution dont vous allez nous parler. Une révolution qui va nous permettre de faire de grosses économies et qui va nous simplifier la vie.
Oui, surtout ça. À partir de demain, on va pouvoir résilier n'importe quel contrat d'assurance en 3 clics maximum sur Internet. Ça fait partie des mesures d'urgence qui avaient été annoncées par le gouvernement l'été dernier pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. L'objectif, c'est de pouvoir comparer les prix et changer rapidement d'assureur si on trouve moins cher ailleurs. Alors la mesure concerne les assurances automobiles, les contrats habitation, les complémentaires santé, ça n'est pas anodin, elles ont beaucoup augmenté. Oui. Les compagnies vont devoir mettre en place une fonctionnalité directe, facile d'accès et permanente, et surtout sans aucune ambiguïté, c'est ce que dit clairement le texte qui a été publié par le gouvernement.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du chantage à l'assurance en disant bah, si vous ne baissez pas mon prix de cotisation, bah, je m'en vais.
Alors en gros, oui, c'est mais génial, tu ne leur parleras pas puisque tu vas te désabonner sans leur parler directement.
Ah bah si, je préfère leur parler avant, histoire d'avoir une baisse de prix.
Bah voilà, mais ça s'appelle de la négociation.
Du chantage. on pouvait quand même. Enfin, après Stéphane, bien sûr c'est une nouveauté parce que ça va aller rapidement, mais il me semble, je peux me tromper, mais que vous avez fait une chronique ici même en nous disant qu'on pouvait déjà changer plus facilement d'assurance.
Depuis 2014, ça s'appelle la loi Hamon. On peut changer d'assureur n'importe quand dans l'année et pas uniquement à la date anniversaire du contrat. Sauf que les assureurs avaient rapidement compris l'astuce. Oui. Ils vous mettaient des obstacles pas possibles devant pour vous passer l'envie de vous désabonner. On vous demandait par exemple d'envoyer une lettre recommandée avec différents documents et beaucoup de consommateurs abandonnaient la procédure en cours de route. Donc demain, ça sera terminé. 3 clics théoriquement sur Internet.
Est-ce que les assureurs vont jouer le jeu?
Ah, très sincèrement, ils ne vont pas avoir le choix, c'est obligatoire. Ceux qui ne respecteront pas les règles risquent une amende colossale, jusqu'à 75 000 euros d'amende pour une entreprise, donc pour une personne morale, et 15 000 euros pour une personne physique. Ça n'empêche pas les assureurs quand même de critiquer cette nouvelle mesure. D'abord, ils ont peur du risque de fraude. Si on peut résilier trop facilement, ils ont peur qu'une autre personne résilie un contrat à votre place.
Ah oui, et ils s'inquiètent. Pourquoi les gens feraient ça?
Je ne sais pas, par pur esprit de nuisance. Et ils s'inquiètent aussi du risque de défaut d'assurance, parce qu'avec une procédure simplifiée, certains consommateurs vont peut-être être tentés, s'ils ont du mal à joindre les deux bouts, à annuler certaines assurances qui pourtant sont obligatoires, et je pense à l'assurance automobile. C'est un vrai problème, hein. C'est pas seulement une posture de la part des assureurs. On estime que 800 000 conducteurs en France roulent sans assurance. Donc évidemment, les assureurs ont peur que ça incite encore davantage d'automobilistes à abandonner l'assurance.
Mais alors, exemple Stéphane, admettons, par exemple, j'ai n'importe quoi. Je pars en juillet, en août, je sais que je ne vais pas utiliser ma voiture, elle va rester au garage. Est-ce que je pourrais, par exemple, fin juin, me désabonner de mon contrat d'assurance? Et puis, comme je n'utilise pas ma voiture, le reprendre en septembre.
Ah, théoriquement, tu peux faire ce que tu veux. Juste une précision, si vous laissez une voiture au garage, il faut quand même l'assurer. Parce que si la voiture explose ou elle prend feu, qu'elle met le feu au bâtiment, il faut qu'elle ait une responsabilité civile. Ah, oui. Et ça m'est arrivé également, il faut aussi l'assurer au cas où quelqu'un vole la voiture. Ouais. C'est extrêmement bizarre, mais si une personne vole ta voiture qui est au garage et que la personne a un accident et se tue avec la voiture, tu es responsable.
Mais non.
Parce que la voiture n'était pas assurée.
Ah, c'est bien la loi.
Ça fait partie exactement des subtilités de la loi en France.
Est-ce qu'on va faire des économies, parce que c'est quand même le but, Stéphane, est-ce que le fait de résilier plus facilement va faire que les assurances seront moins chères?
Alors ça, c'est le calcul du gouvernement. Ils se disent, si on peut résilier facilement, les assureurs vont avoir peur que leurs clients partent, donc ils vont réfléchir à deux fois avant d'augmenter leurs tarifs. Et d'autres assureurs vont peut-être essayer de casser les prix pour récupérer ceux qui vont se désabonner facilement. Donc ça, c'est le pari du gouvernement. Après, on va pas se mentir, hein. On est le 31 mai, on n'est pas le 25 décembre. C'est pas le moment des cadeaux. Les hausses moyennes d'assurance cette année, entre 3 et 5% pour les contrats auto, jusqu'à 3% pour les contrats habitation et 7,1% pour les complémentaires santé. Donc toutes ces augmentations, ça peut aussi vous donner l'envie soit d'aller voir ailleurs, soit comme Estelle, de décrocher votre téléphone et d'essayer de négocier avec votre assureur. Voilà.
Merci beaucoup. Stéphane Pedrazzi, petite question. Stéphane, est-ce que vous êtes en CDI?
Ici?
Ouais. Bah oui, pas ailleurs.
Je suis en CDI, oui, dans une autre chaîne du groupe.
Oui, bah vous pouvez dire, BFM Business, on a le droit.
Oui, c'est écrit en bas de l'écran.
Voilà, exactement. Vous êtes en CDI, Stéphane. Eh bien, sachez que bientôt, le CDI va être une niche, tout simplement, parce que près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans préféraient travailler à leur compte plutôt que de signer un CDI. Oui. Alors, le contrat à durée indéterminée vous fait-il encore rêver? On en parle dans un instant sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.